on le voyait. Tu sais que Bob Cole faisait pas la grasse matinée à l'hôtel le matin des matchs.
Hein? Ah non?
Non, à l'âge de 75-80 ans, dans les derniers moments de sa carrière, il venait à la pratique du matin, il venait avec son calepin, il venait serrer des mains, il venait rencontrer les entraîneurs, parce que pour que les gens nous suivent, c'est qu'à un moment donné, après les disponibilités médias, que ce soit les joueurs dans le vestiaire ou encore l'entraîneur sur le podium, il y a toujours une opportunité pour les descripteurs et analystes qui veulent rencontrer l'entraîneur. Exemple, quand c'est Martin Saint-Louis finit son point de presse au podium. Puis là, il y a les descripteurs et analystes, les équipes de diffusion, que ce soit l'équipe adverse, l'équipe de diffusion adverse locale, l'équipe de diffusion nationale, ce que faisait partie M. Cole avec Sportsnet dans les derniers moments de sa carrière, avec CBC dans la grande partie de sa carrière, rencontre le coach. Puis M. Cole avait toujours droit à sa rencontre toute seule avec l'entraîneur. Puis tout le monde se tassait, puis on laissait M. Cole jaser avec l'entraîneur, que ce soit Claude Julien avec le Canadien ou les derniers entraîneurs qui ont dirigé l'équipe. Puis M. Cole venait prendre les trios. Il venait valider les trios pour préparer son match. Puis quand je dis qu'au lieu de se prélasser, puis écoute, à 75 ans passés, là, il aurait pu rester à l'hôtel puis manger ses toasts puis prendre son mollo jusqu'au match de ce soir. Non. M. Cole venait à la pratique du matin, venait rencontrer les gens, puis pour lui, c'était important. Ça faisait partie de sa préparation de rencontrer les entraîneurs et aussi à la fois quelques joueurs de temps en temps. C'est vraiment, écoute, pour nos compatriotes anglophones, sa voix a représenté la musique qui accompagnait le hockey pendant plus de 50 ans.
Non, c'est une immense perte, le décès de Bob Cole aujourd'hui. Mais Martin, écoute, je ne sais pas si tu seras là jusqu'à 80, mais on veut te garder encore le plus longtemps possible, s'il te plaît.
Moi aussi, je veux me garder le plus longtemps possible. Mais honnêtement, à 80, Jérémy, je serais très surpris.
OK. Hey, on va se parler des Bruins de Boston qui ont battu hier les Leafs de Toronto par la marque de 4-2.
Ouais.
Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe pour les Leafs? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que Boston est capable de rentrer dans la tête des Leafs de Toronto de la sorte?
Moi, je pense que les livres se rentrent eux-mêmes dans la tête. Tu me saisis, là.
Oui,
tu sais, je vois les écrits aujourd'hui, puis je vois que l'entraîneur Montgomery, d'ailleurs, moi, je serais pas allé là si j'avais été lui, là, mais il a commencé à dire que Jeremy Swayman était peut-être entré dans la tête des marqueurs des livres de Toronto. Ça, c'est un peu malhabile de dire ça quand t'as Austin Matthews de l'autre côté, là, mais je ferme la parenthèse. Jim, c'est un gars qui est spontané, puis là, je pense qu'il a été un peu trop spontané. Mais quand je dis que les Leafs sont leur pire ennemi, Jérémy, là, les Leafs avaient une avance à protéger hier, parce qu'ils l'ont pris l'avance, puis ils l'ont pris à un moment clé de la partie. Puis je regardais le match, puis je me disais, là, ils ont un vrai test. Là, on va voir s'ils sont passés à l'autre niveau, s'ils sont capables de protéger cette avance-là contre une équipe de la qualité des Bruins. Puis peut-être, à la limite, aller mettre un but dans le filet désert, un peu ce que les Bruins leur ont fait. Mais tu sais quoi? La première mise en jeu, après le but que les Leafs marquent, c'est le trio de Matthews qui est sur la patinoire, avec Bertuzzi et Domi. Tu sais très bien que Brad Marchand, c'est un gars intelligent. Lui, il est tout sauf nono Brad Marchand, puis il agit avec émotion, mais c'est souvent bien calculé, ses affaires. Puis là, le but vient d'être marqué, puis il voit que c'est encore les mêmes gars qui sont sur la glace. Ils ont 30 secondes et quelques de présence dans les jambes, puis ils sont encore là. Alors, Marchand commence à achaler Bertuzzi, parce qu'il connaît, il a joué avec. Alors, il l'achale. Là, les livres se retrouvent dans leur zone. Et je me dis, à un moment donné, ils vont sortir de là. Non, ils sortent pas de là. Puis là, le but arrive dans la lucarne, par-dessus l'épaule de Samsonov. Le tir était sublime. Mais ça restait un but sur le côté rapproché. Mais quand on regarde ça collé sur la vitrine, on dit, bon, les livres sont encore un gardien qui est pas capable de faire la job. Ben, je m'excuse, mais les joueurs clés de cette équipe-là, là, avant la mise en jeu, auraient dû aller au banc, Jérémy. Parce qu'à 36 secondes, quand le match est sur la ligne, rendu en troisième période, tu peux pas te faire prendre avec pas de jambes, comme dirait l'autre. Puis c'est un peu ce qui est arrivé hier. Puis les Bruins, c'est une bonne équipe. Ils en ont profité. Marchand savait exactement quoi faire. Alors, tu sais, je regarde les Leafs, puis on a l'impression qu'ils apprennent pas. Ils apprennent pas des malheurs de l'an passé, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, puis d'il y a 4 ans. Ils apprennent pas.
Moi, Martin, je suis pas convaincu de Matthews avec Bertuzzi et Domi. Tu sais, je veux dire, je sais qu'on veut.
Moi, j'aime ça.
Ben, écoute, moi, le problème que je vois avec ça, c'est qu'on a donné, selon moi, en sous-traitance l'intensité chez les Leafs de Toronto. On a appelé Bertuzzi, ouais. On a appelé Domi, on a dit, vous allez être nos petites pestes, vous allez travailler à l'entour du filet. Mais j'ai l'impression que on sous-alimente Auston Matthews de cette façon-là.
Sais-tu ce qu'on a essayé de créer? On a essayé de créer une dynamique semblable à McDavid, Hyman. Mm-hmm. Tu sais, Hyman, il était à Toronto, hein? Puis il le manque cruellement. Puis c'est un peu ce qu'on a essayé de créer avec Domi. Domi, c'est pas Hyman. Hyman, c'est 53. Mais Hyman, il a toujours le nez dans la moutarde, Jérémy. Il fonce au but. Puis là, McDavid a développé un radar à Hyman. Pourquoi il a tant de passes cette année à cause de ça? Parce qu'il sait exactement où il va le trouver. Il va le trouver devant le but. Puis, y a-tu quelqu'un d'aussi sublime que McDavid pour faire des passes?
Ah, il est bon.
Alors, cette dynamique-là, on a essayé de la créer à Toronto.
OK.
Avec Bertuzzi, puis avec Domi. Moi, je déteste pas l'idée. Mais c'est toujours avec la défensive que les Leafs perdent les matchs.
OK. Sauf que, puis là, on va conclure là-dessus, là. Sauf que Matthews est sur un trio avec Bertuzzi, Domi. Là, ça fait que Marner est invisible. Nylander n'est pas là, ne joue pas. Fait que, tu sais, le punch offensif, il est pas bien, selon moi, là. C'est pas concentré. On en a juste pas nécessairement comparativement à ce qu'on a habituellement avec les Leafs de Toronto.
Ça va prendre un petit miracle de la médecine sportive, là, pour amener Nylander. Moi, je pense que Nylander aura pas le choix. Il va jouer le prochain match, là. À moins qu'il y ait quelque chose de passé, puis qu'il puisse absolument pas jouer, là. Je pense qu'il va jouer le prochain match avec des traitements. Mais, tu sais, vraiment, là, c'est défensivement que ça marche pas, Jérémy. Tu sais, je regardais le grand Edmundson, là. Il est honnête, là. Tout ce qu'il sait faire avec la rondelle, c'est la tirer à l'autre bout. Il sait rien faire d'autre. Il patine plus. Il avance plus, notre beau Joël.
Ouais.
Tu sais, il a donné ses derniers coups en 2021 avec le Canadien, puis là, il surfe là-dessus.
OK, Martin, juste te dire qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ça, que j'étais un joueur de hockey, un défenseur honnête. Et là, je comprends ce que ça voulait dire.
Tu sais ce que ça veut dire. Hein?
Là, je comprends.
Parce qu'il est, c'est vrai qu'il est honnête, Edmundson.
Oui.
Là, probablement qu'il joue au vétéran dans cette équipe-là, puis il a gagné la coupe, puis il se bombe le torse, puis il se promène là. Mais honnêtement, là, Jérémy, il avance plus.
Non.
Alors, tu sais, ça fait partie des éléments. Les Leafs perdent parce qu'ils ont pas une bonne défensive. Puis les Bruins en ont une bonne défensive, puis les joueurs sont très commis. Mais tu sais, à part Marner, qui répète ses mauvaises habitudes d'être en périphérie quand arrivent les séries, les autres, ça travaille.
Ah non, c'est sûr, ça travaille fort.
Mais il y a toujours une ou deux erreurs défensivement qui coûtent les matchs.
OK, là, je veux savoir une chose. On va se parler des Kings et des Oilers dans quelques instants.
Oui.
Juste avant, est-ce que avec la déclaration de Jim Montgomery, est-ce qu'on vient d'arrêter la rotation Swayman ou Mark?
Oui, c'est fini la rotation. C'est hier, là, écoute, là, Swayman a été impérial. Puis tu sais, de toute façon, là, Montgomery, d'après moi, il veut coacher Bruins l'année prochaine. Là. Mm-hmm. D'après moi, là, il veut pas s'en aller de là. Puis c'est parce qu'il va dealer, excusez-moi l'expression, avec Swayman, puis Hallmark sera plus là. Parce que tu te souviens de l'histoire de la date limite des échanges,
ben oui,
là.
Ben oui.
Il l'aurait échangé aux Kings, puis Hallmark a exercé sa clause pour rester à Boston. Il va partir cet été, Hallmark. Avec celui avec laquelle l'entraîneur Montgomery doit bâtir des relations, c'est Jeremy Swayman.
Okay.
Puis là, les petites accolades, c'est bien cute, là. Mais c'est parce que l'an prochain, le numéro un des Bruins va être le numéro un, le vrai numéro un. Puis Hallmark va être parti. Alors, la rotation, d'après moi, elle est finie.
OK. Les Kings l'ont emporté 5-4 face aux Oilers en prolongation. La série est égale 1-1. Est-ce que tu sens que les Kings, c'est du sérieux? On est allé à la dernière minute être capable de marquer un but pour gagner en prolongation. Tu sens-tu les Oilers en pleine possession dans cette série-là?
Moi, je pense que c'est un soubresaut de la part des Kings. Les Oilers sont très solides. Ils avaient mal commencé le match. Puis hier, là, ce qui a fait la grosse différence, Jérémy, c'est que les joueurs clés des Kings ont été au rendez-vous. Écoute, tu sais, Kopitar a été là. Campe a été solide. Dano a été solide. Drew Doughty a marqué son premier but en série depuis 2014. Ça fait-tu un bout, ça, d'après toi? Alors, tu sais, les leaders, tu sais que après, à la fin du dernier match, Doughty engueulait ses chums au banc.
Oui.
Avant que le match finisse.
Ça va bien.
Il fallait qu'ils rebondissent. Parce que tu peux crier après tes chums quand tu es un gars comme Doughty, mais rebondit, par exemple. Alors, il a rebondi. Puis je pense que les Kings ont montré beaucoup de caractère hier en gagnant une à Edmonton. Mais les Oilers sont très solides. Tu sais, tu les as vus dans le match hier, là, même quand ça allait mal, ça allait pas l'air vraiment à aller mal pour eux. J'aime bien leur langage corporel, pour prendre l'expression de Danny, cette année.
Bon, on va terminer avec les Coyotes de Salt Lake City, qui sont arrivés à Salt Lake City. Je sais pas si tu as vu les images de Salt Lake.
Oui.
Il y avait 12 000 personnes dans l'amphithéâtre pour les accueillir.
Quand même, hein?
Écoute, c'est pas banal quand même.
C'est presque trois fois ce que les Coyotes ont eu en Arizona dans certains matchs, Jérémy. Non, écoute, je fais un petit peu d'ironie puis de blague, mais je pense que notre ami Tourigny va être dans un bon environnement avec Salt Lake City. C'est un bon marché, c'est un bon propriétaire. Moi, je suis allé là, Jérémy, en 1997.
OK, tu l'as vu, cette place-là.
Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, puis j'avais même profité de l'occasion. Je travaillais à RDS à ce moment-là, puis je faisais les matchs de la Ligue internationale, puis on avait été là pour deux matchs dans un week-end. Puis vraiment, il y avait eu du monde. C'était un week-end, évidemment, c'est plus facile. Je sais pas que l'aréna était remplie, mais c'était l'aréna dans lequel la nouvelle équipe va jouer. Puis je trouve que vraiment, c'est un endroit solide. Puis le propriétaire est très solide. Ça me rappelle un peu M. Foley à Vegas. Ça me rappelle les propriétaires du côté de Seattle. Ce sont des gens sérieux, impliqués dans le monde du sport. Ils connaissent cette business-là. Alors, la population va embarquer parce que Ryan Smith, c'est un gars solide et crédible. Et comme les Coyotes, avec un petit peu d'aide sur le budget, Jérémy, ils vont être capables maintenant de garder des joueurs, puis peut-être même aller se chercher des joueurs. Je pense que les Coyotes sont bien équipés, là, parce que si on dit qu'il y a des belles promesses à Montréal, on regarde les Coyotes, puis il y a des belles promesses pareilles, parce que les Coyotes ont même été un peu meilleurs que le Canadien cette année. Alors, l'équipe montre de belles choses, puis le marché va être solide. Les gens connaissent le hockey à Salt Lake City, et même quand l'équipe de Salt Lake City, de la Ligue internationale à l'époque, voyageait, il y avait des médias de Salt Lake City qui voyageaient avec l'équipe et qui faisaient des reportages. Puis on parle d'une équipe de ligue professionnelle mineure, là. On parle pas de la Ligue nationale à ce moment-là. Puis je suis allé également à Park City pour faire des tournages pour RDS parce que les Olympiques avaient lieu là en 2002. Puis vraiment, c'est un endroit formidable, là. La ville, c'est pour ça qu'on appelle ça l'Utah, c'est que la chaîne de montagnes forme un U autour de la ville, de la région de Salt Lake City. Puis c'est vraiment très beau là-bas. Et le pouvoir, là, je vais aller sur un terrain glissant, là. Le pouvoir religieux mormon à Salt Lake City a beaucoup diminué ces dernières années.
OK.
Alors, il y a encore des restrictions, mais il y a les citoyens qui ne sont pas de la religion mormon peuvent très bien vivre et se font plus emmerder, puis ils peuvent avoir les libertés qu'ils veulent.
Faudra juste, par contre, là, moi j'ai vu les images de Guillaume Lefrançois qui était dans l'amphithéâtre, il va falloir adapter les estrades, parce qu'il faut pas que ça devienne comme Brooklyn, où ça avait pas de sens. Là. C'était définitivement un amphithéâtre de basket et pas un amphithéâtre de hockey.
Ouais, puis l'équipe va être condamnée à jouer là pour une couple d'années. Semble-t-il que Monsieur Smith veut construire un nouvel aréna de hockey, mais ça sera pas tout de suite là. Si on dit que ça prend à peu près 5 ans pour mettre un projet à terme là, au niveau d'un nouvel aréna, ça va être 5 ans dans le Delta Center. Est-ce que si ma mémoire est bonne,
Ça ressemble à ça.
Delta Center.
Exact.
Bon, écoute, mais je l'ai vu. Puis ça me rappelle un peu Brooklyn, parce que c'est un amphithéâtre qui a été conçu pour le basket, en tout cas, comme celui de Brooklyn.
En autant qu'on soit pas sur la ligne des buts pour faire une description de match, tu t'en souviens, Brooklyn, c'était pas super.
C'est parce que...